On leur dit ça c'est vrai, ils disent ok. On dit ça c'est pas vrai, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça c'est beau, ils disent ok. On dit ça c'est pas beau, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit le bonheur à la portée de tous, un gros téléviseur, un écran 24 pouces. Vous n'êtes pas des losers, vous les niquerez tous, vous pouvez devenir des stars, ouais. Vous pouvez gagner des milliards, allez. Regardez, 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 regardez. Regardez. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Ils apprennent tout dans nos écoles, dans nos journaux, nos télés, ils ont tous cette envie folle, nous tutoyer, nous rassembler. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc dans un monde sans foi et sans loi, comme le goulag, le grand danger, un des grands dangers, est que l'on peut très facilement, très rapidement se dégrader. Parce que bien sûr, tout le milieu est hostile. Donc non seulement il faut se battre pour vivre, mais il faut même se battre sans pitié, simplement pour survivre. Simplement pour survivre. Et dans ces conditions, rester un homme juste est très délicat et c'est très dur. Un ancien du goulag, qui est pris de pitié pour Solzhenitsyn et ses compagnons nouvellement arrivés, va leur donner cette leçon de survie. Je le cite. Je cite cet ancien. « Dès que vous aurez mis les pieds au camp, tout le monde essaiera de vous tromper et de vous voler. Ne croyez personne sauf vous-même. » On est animal social et quand justement il n'y a plus de rapports sociaux possibles parce que la parole ne vaut plus rien, c'est invivable. Et à un moindre degré, bien sûr, je n'ai pas été au goulag, mais j'ai été en Afrique, au Gabon, et à un moindre degré, j'ai un peu touché de doigt cela, parce que la masse était païenne, et puis aussi il y avait pas mal de musulmans. Et en effet, j'ai très vite vu que, c'est vrai aussi aujourd'hui hein, dans nos pays, mais il y a quand même une habitude chrétienne, même s'il n'y a plus de vie chrétienne, il y a des habitudes chrétiennes dans la masse, de moins en moins. Voilà pourquoi on est de plus en plus à égalité avec les pays païens qu'on a appelés les barbares et les sauvages. Mais j'ai bien vu que, par exemple, j'allais au début chez un coiffeur, le coiffeur du quartier, donc où tous les noirs venaient se faire couper les cheveux. Eh bien, pour moi, il a multiplié par 5 le prix. Et quand je lui ai demandé, mais pourquoi, il m'a dit, parce que c'est plus compliqué de couper les cheveux aux blancs. Je dis, tu te fous de moi. En fait, non, c'est beaucoup plus simple. Et heureusement, je m'étais renseigné du prix. Vous voyez, on ne peut plus faire confiance à personne. Un autre exemple, on vendait du bois, et puis donc un pick-up, on remplissait le pick-up, mais il avait tellement chargé le pick-up qu'en fait, il avait pris 2 fois plus de bois que pour le même prix. Je lui dis, attends, là, t'as chargé à ras-bord ton pick-up, c'est pas le contrat. Il dit, j'ai que ça, et je reviens, j'ai déchargé. J'ai chargé, donc laisse-moi le transporter, j'habite pas loin, puis je reviens te payer. J'ai fait confiance. Et puis mon boy, qui était avec moi, il a éclaté de rire après. Il m'a dit, il va jamais revenir. Il va jamais revenir. Il est jamais revenu. Allez. Donc c'est ça, mais puissance 100, 1000 au goulag. Parce que là, il y a l'instinct de survie, il y a l'instinct animal, on devient des crocodiles. Ayez l'œil. J'étais aussi naïf que vous il y a 8 ans quand je suis arrivé à Kargopolag. On nous avait fait descendre du convoi et l'escorte s'apprêtait à nous conduire au camp. Il y avait 10 kilomètres à faire dans la neige, profonde et molle. 3 traîneaux s'approchent. Un homme jovial que l'escorte laisse passer nous dit « Hé les gars, posez là vos affaires, on vous les transporte ». On avait lu dans les livres que les affaires des détenus étaient en effet transportées sur des chariots. Alors on pense alors, eh bien la vie n'est pas si inhumaine que cela. Nous déposons nos affaires et nous ne les avons jamais revues. Mais comment est-ce possible? Alors, quoi, il n'y a pas de loi là-bas? Ne posez pas de questions idiotes. Il y a une loi, celle de la taïga. Taïga, c'est la forêt, c'est la jungle, mais là, c'est le nom de la forêt russe. Et quant à la justice, il n'y en a jamais eu au goulag et il n'en aura jamais. Parce qu'il n'y a plus d'ordre, parce qu'on est dans une logique d'anarchie et d'anti-pouvoir, de mensonge. Une autre habitude à prendre au camp, c'est au camp, personne ne fait rien gratuitement. Personne ne fait rien par bonté d'âme. Ça aussi, on le touche parfois du doigt. Il y a toujours des exceptions, heureusement, mais on le touche du doigt de plus en plus dans un monde où c'est l'argent qui règne. Il faut payer pour tout. Si on vous propose quelque chose, comme ça, d'une façon désintéressée, sachez que c'est pour vous mener en bateau, que c'est une provocation. Et le plus important, c'est d'échapper aux travaux généraux, fuyez-les dès le premier jour, fuyez-les, sinon vous êtes perdu et perdu pour toujours. Parce que, en effet, les travaux généraux, c'était une mort par épuisement à très brève échéance. Les plus anciens des travaux généraux, c'était l'abattage des arbres dans les forêts, justement la taïga et dans les régions inhospitalières. Et puis l'autre grande activité, ce sera les travaux de terrassement, 13 heures par jour, plus les 5 km à faire, aller puis retour. Tout cela avec des températures souvent en dessous de zéro. Bref, comme le dit Solzhenitsyn, il n'y a personne pour raconter cela. Tous sont morts. Tous ceux qui ont vraiment fait les généraux sans aucune échappatoire n'ont pas supporté plusieurs mois ce régime. Alors certains, par contre, ont la chance d'être nommés à des postes beaucoup plus tranquilles, comme ingénieur constructeur pour telle zone. Un tel autre qui a trouvé une relation dans le camp, eh bien, va trouver une place dans un bureau ou bien au salon de coiffure, etc. Et alors, à ce moment-là, bien sûr, les cœurs des autres qui n'ont pas encore leur place, eh bien, se serrent parce que tout cela se fait aux dépens des autres. Car quand toutes les bonnes places sont prises, il reste les travaux généraux, qu'il faut justement, disait l'ancien, éviter à tout prix. La loi de la jungle fait qu'il vaut donc mieux aussi dormir tout chaussé au goulag, afin d'éviter de se faire voler ses chaussures pendant la nuit. La journée, il faut partir avec tous ses vêtements, tous ses effets, parce que sinon on vous les volerait pendant la journée. Bref, vous ne devez rien laisser dans le baraquement. Ce qui aurait été méprisé par les voleurs sera confisqué par les surveillants. Voilà pourquoi les prisonniers sont toujours habillés chaudement. Premièrement, dit Solzhenitsyn, l'été est court et l'hiver est long. Il faut donc conserver tout cela pour le froid. Et où le garder sinon sur soi? Ensuite, et c'est une autre raison pour laquelle gardé tous leurs vêtements, cela crée une couche molle et des coussins d'air, si bien que les coups ne lui font plus mal. Quand on est battu à coups de pied ou de bâton, eh bien, il n'y a pas de bleu, grâce à l'épaisseur des vêtements. Car, et c'est la remarque qui suit très importante, car au camp, on aime beaucoup battre les faibles. On aime beaucoup battre les faibles. Et on, ce ne sont pas seulement les répétiteurs ou les brigadiers, ce sont aussi les simples détenus qui font cela pour sentir qu'ils ne sont pas encore arrivés au dernier degré de la faiblesse. Qui pouvons-nous, si les hommes ont besoin, pour être sûrs de leur force, de commettre des actes cruels? Cette remarque explique beaucoup de choses sur les malheurs de l'humanité, présentes et passées, et futures. Combien de fois avons-nous tendance à abuser de notre pouvoir? Combien de fois avons-nous tendance à abuser de notre pouvoir, de notre force? Et cet abus de force, eh bien, nous fait jouir, de manière vicieuse évidemment, mais on sent encore qu'on a du pouvoir, qu'on peut imposer sa volonté. Donc il faut éviter les travaux forcés à tout prix, parce que ce travail, je le disais, donc demande beaucoup de force, et au goulag, eh bien, on mange très peu. Celui-ci a tout un chapitre sur la faim. Il y avait donc une petite soupe d'ortie, et puis 450 grammes de pain, ou 500 ou 600 selon les camps, et puis rien le soir, ou pas grand-chose, etc. L'autre remarque importante est la suivante. Voici des siècles qu'on a découvert que le monde est gouverné par la faim. Donc il y a la peur et la faim. Et ça n'a pas changé, notre monde n'a pas changé. La peur, la faim, c'est ça qui gouverne les hommes en grande partie. Tout homme affamé, à moins qu'il n'ait décidé lui-même consciemment de mourir, est gouverné par la faim. Ça aussi on le reverra très souvent, le seul moyen de rester intègre, c'est d'accepter de mourir s'il le faut. Donc on ne va pas survivre à tout prix justement. On va être prêt à mourir, il y a des moments où il vaut mieux mourir que deux. Donc sauf l'homme qui lui est consciemment prêt à mourir s'il le faut, la plupart des hommes sont gouvernés par la faim. La faim qui force l'homme le plus désintéressé à regarder avec envie dans l'assiette d'autrui, à évaluer le cœur serré combien pèse la part du voisin. La faim qui obscurcit le cerveau et ne tolère aucune distraction, aucune pensée, aucune parole qui ne concerne pas la nourriture. La nourriture, la nourriture. la fin à laquelle on finit par ne plus pouvoir échapper en dormant. En rêve, on voit la nourriture. Dans l'insomnie, on voit de la nourriture. Et bientôt, il n'y a plus que l'insomnie. La faim qui fait qu'ensuite, par un effet de retard, on ne peut même plus arriver à se rassasier. La faim qui fait qu'on se bat à mort pour une tête de poisson ou des épluchures de légumes. Et ce n'est pas propre au goulag. Vous savez que les révolutionnaires ont emprisonné des milliers de prêtres sur deux bateaux, ce qu'on appelle les pontons de Rochefort. Eh bien, dans ces épisodes cruels, eh bien, il y a eu des cas similaires. Des prêtres, des chanoines se sont battus pour quelques épluchures de pommes de terre pourries que les révolutionnaires avaient jetées pour s'amuser. Certains, pas tous, parce que les prêtres sont aussi des hommes et que la plupart des hommes sont gouvernés par la faim. Bien sûr, d'autres prêtres agissaient différemment et ils étaient tous, ces prêtres racontent dans leur mémoire, ils étaient émerveillés par un capucin qui passait la plus grande partie de sa journée à prier les bras en croix au soleil sur cette petite barque ou sur un îlot, je ne sais plus. Il en est mort, bien sûr, très rapidement. Il était prêt à mourir, lui. Il avait compris que ça ne servait à rien de se battre pour une épluchure. On peut le comprendre, mais quand la faim est là, c'est autre chose. Attention, donc, nous, comme le dit l'épître d'aujourd'hui, nous sommes capables de nous-mêmes de la moindre bonne pensée. Toute notre capacité vient de Dieu. Ben pourquoi il faut s'humilier et prier? Donc, dans de quelles conditions du goulag, l'horizon intellectuel et spirituel d'un être humain, vous le comprenez, se rétrécit très rapidement. L'homme retourne à la bête. Et le processus selon lequel on meurt vivant s'enclenche. Les psychologues qui se retrouvaient dans les camps avaient pour la plupart bien autre chose à faire que de procéder à des observations. Ils tombaient eux aussi dans ce courant qui précipite la personne humaine dans la fange et dans les excréments. Et Solzhenitsyn fait un peu plus loin cette prière. « Seigneur, Seigneur, sous les obus et sous les bombes, je te demandais de me conserver en vie. Mais maintenant, je te le demande, envoie-moi la mort. » Envoie-moi la mort. C'est-à-dire que oui, en effet, la mort était vraiment une délivrance dans ces conditions. Une grâce, presque. Sûrement même. Et cette déchéance de l'homme, eh bien, n'épargne ni les femmes, ni les enfants. Solzhenitsyn a un chapitre sur les femmes, un grand chapitre et un grand chapitre sur les enfants. Je vous donne juste deux anecdotes, car on n'a pas le temps de tout voir, évidemment. Solzhenitsyn a remarqué que les femmes supportaient mieux la faim et la prison, donc l'enfermement, que les hommes. Par contre, dans la jungle du goulag, dans les camps, c'est l'inverse. Tout est plus dur pour la femme que pour les hommes. À commencer par la saleté, l'anarchie qui règne, le désordre. Et la saleté, ça, c'est la précision de l'esprit féminin ne le supporte pas. Tandis que l'homme, lui, un garçon peut être crado pendant une semaine et il va très bien vivre. La femme ne le supportera pas une matinée. Le seul moyen d'éviter cet enfer était pour les femmes de livrer leur corps aux hommes. Difficulté. La majorité des 58, donc des femmes condamnées pour raisons politiques, étaient composées de femmes pour qui cette déchéance était plus horrible que mourir. Et d'autres font des manières, hésitent, sont gênés, mais beaucoup cèdent dès le premier jour. Car ce qui se profile devant elles est trop cruel, et elles sont privées, c'est vrai, de tout espoir. Pour faire ce choix, il n'y a pas que les femmes mariées ou des mères de famille, il y a aussi presque des fillettes. Et ce sont justement les toutes jeunes filles qui, prises à la gorge par la crudité de la vie des camps, deviennent bientôt les plus déchaînées. Cette affaire de viol est classique dans l'histoire de l'humanité. Saint Augustin, dans la Cité de Dieu, a un grand long paragraphe pour expliquer que les vierges qui ont été abusées et qui ont résisté ou qui sont mortes seront martyres, comme Sainte Maria Goretti, ou celles qui n'ont pas eu la possibilité physique d'empêcher la violence, Saint Augustin explique bien qu'elles ne perdent rien à leur mérite. Qu'elle reste vierge aux yeux de Dieu, parce que la virginité n'est pas d'abord un aspect physique, mais un aspect moral, celui de l'âme, et donc que d'une certaine manière, cette violence est comme une deuxième couronne, comme une blessure de guerre. Il y a le viol, je dirais, individuel, dû à un misérable, comme pour Sainte Maria Goretti, et puis il y a le viol idéologique, qui là encore est propre à l'époque du goulag, à notre époque. Le plus grand viol de masse s'est fait à la libération par les armées françaises, américaines et surtout soviétiques. Ça a été une catastrophe. Aujourd'hui, en Angleterre, il y a un scandale qui dure depuis 30 ans. Il y a des gangs de Pakistanais et de musulmans qui sont responsables de dizaines de milliers de vols sur 40 années. Et on étouffe cela, eh bien, au nom de la tolérance et au nom du non-racisme. C'est l'ambiance goulag. Être jolie, dit Solzhenitsyn, était une malédiction. Cette femme avait sans arrêt des hôtes assis sur son lit. Elle était constamment entourée, sollicitée, menacée de coups de poing et de coups de couteau. Et ce qu'elle espérait, ce n'est pas de pouvoir tenir bon, mais d'arriver seulement à se rendre habilement, à en choisir un qui jouerait de son nom et de son couteau pour la défendre contre tous les autres, contre les suivants, car il y avait un défilé avide, et aussi contre ces mouflés, les enfants qui étaient rendus fous, exaspérés par tout ce qu'ils voyaient et qu'ils respiraient. Car il y avait des enfants au goulag, puisqu'à partir de 12 ans, on pouvait être condamné pour l'article 58, on avait vu des exemples. Et dans cet univers cruel des camps, eh bien, les enfants, et ceci est très important à retenir, les enfants s'adaptaient dans l'univers du goulag, non pas en quelques semaines, dit Solzhenitsyn, mais en quelques jours. Un enfant de 12 ans, russe, de l'époque, en quelques jours avait trouvé ses marques. On eût dit que cette vie ne les étonnait pas. Ces enfants de travailleurs, encore en liberté, comprenaient déjà que la vie des hommes reposait sur l'injustice. Mais au camp, tout était mis à nu jusque dans ses conséquences les plus extrêmes. Seule la force y tient lieu de bon droit. Seul le carnassier, le crocodile, a le droit de vivre. C'est l'archipel tel que nous, les adultes, nous le voyons ainsi. Mais nous, nous sommes en mesure de lui opposer notre expérience, nos réflexions, nos idéaux et tout ce que nous avons lu jusqu'à ce jour. Mais les enfants, eux, ressentent l'archipel avec la réceptivité des bêtes. Ils n'ont pas, justement l'expérience ou la culture ou l'habitude des principes qui sont appliqués par un homme. Ils ont sans que celles, ils n'ont pas, avec la réceptivité des bêtes, celles qui n'ont pas de notion éthique. Le mouflé, l'enfant, fait sien ce précepte. Si quelqu'un a des dents plus faibles que les tiennes, arrache-lui le morceau qu'il tient, car il est à toi. Et les enfants sont cruels. Les enfants sont cruels. Mon petite expérience des écoles, hein, en France et au Gabon, et ma propre expérience quand j'étais enfant, le montre. Les enfants sont cruels. Parce que les enfants sont comme les hommes, blessés par le péché originel, et ils peuvent très vite abuser eux aussi de la force, de la petite force qu'ils ont. Ou s'ils ne l'ont pas ensemble, s'ils ne l'ont pas tout seul, ils l'auront en bande, comme on va le voir tout de suite après. Mais ce qui est à retenir, c'est que, et c'est ce qui explique, il n'y a pas d'âge pour faire des bêtises, malheureusement. Il n'y a pas d'âge pour chuter gravement et apostasier. Mais il est vrai, on le voit, qu'un enfant qui sort de la protection familiale et qui se retrouve dans le monde et qui voit que le monde eh bien, est comme un goulag, donc, où c'est le plus fort qui va régner, eh bien, peut très vite s'adapter et très vite perdre, et très vite redevenir le crocodile qui avait été enfui en lui par l'éducation, par les principes. Parce qu'il est encore enfant et parce que l'enfant c'est comme un liquide, tandis qu'un homme de 40, 50 ans, 60 ans, c'est comme un solide. Le solide, on ne le déforme pas comme ça. Il faut une masse, il faut casser, il faut vraiment des efforts pour détruire un gros caillou. Mais un liquide prend la forme du récipient très rapidement, très, très, très facilement. Et l'enfant, c'est ça. D'autant plus qu'il est beaucoup plus influençable, on l'avait vu. Beaucoup plus esclave du regard social et de l'avantage. Donc ces remarques de Solzhenitsyn sont parfaitement cohérentes. Et ce sont des réalités et elles s'expliquent très facilement. Les enfants du goulag, connaissant leur faiblesse, ont décidé donc de survivre dans ce monde de crocodiles. Comment survivre? Comment une fourmi survit? Ben, elle ne survit pas toute seule. Elle va s'associer avec toutes les autres fourmis. Hein. Être attaqué par une fourmi, ce n'est pas un problème. Mais quand des milliers de fourmis vous attaquent, là, vous pouvez en mourir. Et donc, ils vont se mettre en bande. Les enfants au goulag se mettent en bande. Et Solzhenitsyn raconte plusieurs de leurs exploits. L'un des plus dramatiques, ce jour où 40 enfants vont piéger une infirmière extérieure, où ils vont violer, embrasser, mordre, etc. Il savait de plus qu'il était interdit de tirer sur eux. Donc ils abusaient eux aussi de cette faiblesse qui était leur force. Ces enfants, bien sûr, jouent aussi, ils ont 12 ans, donc un enfant de 12 ans, il joue, et il vole sans retenue. Et au camp, pas de moyen de les stopper, ou de les envoyer, il n'y a plus de parents qui sont là, ou il n'y a plus de possibilité de coercition sur eux. On ne peut pas les envoyer ailleurs. Et il est très humiliant pour les autres détenus qui sont adultes, qui sont pères ou grands-pères, d'être livrés à l'arbitraire de ces petits garnements, des petits-enfants. Un vieux, par vengeance, avait trouvé une méthode pour se débarrasser de ces bandes. Eh bien, lorsque un enfant était isolé, il le prenait en cachette et il le mettait à terre, et avec ses genoux, il lui cassait des côtes, plusieurs côtes. Et ainsi, l'enfant, quelques jours, quelques semaines plus tard, ne pouvait plus survivre et mourait. Il en a, dit Sojenitsyne, il en a tué plusieurs comme ça. Et bien sûr, la bande s'est vengée en un jour attaquant ce vieux, tous ensemble sur lui. Et il en est mort. On voit bien, quand on est dans un contexte où il n'y a plus de loi, il n'y a plus de justice, la haine engendre la haine. C'est pas pour rien l'importance du règne social du Christ. L'importance que l'autorité cherche à pratiquer la justice et les lois de l'évangile. Ça aide les gens à vivre et à se sauver. Et plus les nations quittent cela, et bien plus elles se rapprochent de la loi mafieuse, de l'anti-loi du goulag. Les travaux généraux, donc, nous l'avons vu, sont la base du goulag. 80% des détenus y étaient employés. Donc on a vu la faim, on a vu aussi, il faut se imaginer qu'ils sont constamment humides, mouillés, les baraquements sont mauvais, donc on meurt à brève échéance. Voilà donc pourquoi l'ancien disait à Sojenitsyne de les fuir dès le premier jour et à tout prix. Et concluons aujourd'hui, mais c'est ce que nous allons développer parce que c'est vraiment la question importante. À n'importe quel prix. À l'époque, j'ai compris et accepté les conseils de l'ancien, dit Sojenitsyne, qui n'avait rien d'exagéré, tout en oubliant de lui demander « Mais en quoi se mesure ce prix ?» Et jusqu'où peut-il monter ce prix? Survivre, vivre à tout prix, éviter les travaux à tout prix. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots, concrètement? C'est la question et c'est la bonne question. C'est elle qui fait vraiment pénétrer dans l'univers du goulag et dans sa psychologie. C'est la question d'ailleurs qui sépare l'humanité en deux. Ceux qui ont une vie intérieure et qui ne seront pas prêts à survivre à tout prix, et ceux qui n'ont qu'une vie extérieure et qui vont être prêts à survivre à tout prix. Voilà, le monde se sépare dans ces deux catégories. Et comme le disait Sojenitsyne, parfois nous sommes dans l'une, parfois nous sommes dans l'autre, malheureusement, puisque ici-bas, il y a tout est changeant et mouvant. Mais en tout cas, c'est la question importante à se poser, et c'est celle que le Christ nous a lui-même posée lorsqu'il demandait à ses apôtres, à ses disciples. Que sert à l'homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme? C'est exactement cette question. Que sert à l'homme de gagner le monde? C'est-à-dire, que sert à l'homme de survivre ou de bien vivre si c'est au prix de perdre son âme, c'est-à-dire perdre ce qui fait sa dignité et son éternité? C'est la question. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
On leur dit « eux gentils », ils disent « ok ». On leur dit « eux méchants », ils disent « ok ». Qu'est-ce qu'ils sont cons? On leur dit c'est la guerre, ils disent ok. On leur dit faut la faire, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons? On dit l'ennemi se cache n'importe où, surveillez vos amis, restez planqués chez vous, nos démocraties sont en danger partout. On leur dit insécurité, on dit état policier, allez, paniquez, 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 paniquez. On a le monde à notre pote, 6 milliards. Qu'un moyen qui baisse docilement leurs culottes et qui nous bouffe dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres? Qu'est-ce qu'ils sont cons? Au service de nos portefeuilles, sous les prétextes les plus grossiers, ils se font démonter la gueule partout. Ils restent à piller. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres? Qu'est-ce qu'ils sont cons? Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres? Qu'est-ce qu'ils sont cons? Puis on dit l'air et l'eau deviennent des denrées rares qu'on achète en tonneaux, payant pétrodollars. Faites de plus en plus chaud, faites de plus en plus noir pendant qu'on gaspille ce qu'il reste. Tâchez de vivre un peu modeste pour réparer, 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 réparer. Nous on a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyen qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces
pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ça attend qu'on les culpabilise, et que l'on sait les surveiller, qu'on les distraite, qu'on les divise. Aucun ne viendra nous saigner, qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner, qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner, qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner, qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Ok, ok, inspirez, expirez, inspirez, expirez, respirez plus.